Radio Prague, les informations.
Václav Klaus et Angela Merkel ne sont pas d'accord sur le traité constitutionnel européen. Le député Miloš Melčák a été révoqué de la présidence de la social-démocratie. Une statue ornant le pont Charles a été victime d'un acte de vandalisme. Des chutes de neige ont à nouveau perturbé la circulation. Le président tchèque Václav Klaus et la chancelière allemande Angela Merkel sont d'accord sur la nécessité de continuer les négociations sur le prochain traité constitutionnel européen. Leurs opinions divergent sur le texte de départ. Václav Klaus ne pense pas que cela puisse être le projet actuel. Angela Merkel a effectué vendredi sa première visite officielle à Prague. L'Allemagne, qui préside l'Union européenne, s'est fixée pour objectif de relancer le débat sur la Constitution. Au début de juin prochain, la chancelière veut inviter les représentants des pays membres de l'Union pour des négociations bilatérales à Berlin. Des délégués de la conférence régionale du Parti social-démocrate, Aslin, ont révoqué Miloš Melčák de la présidence du parti. En contradiction avec l'attitude de la social-démocratie, Melčák a soutenu le gouvernement du Parti civique-démocrate de Mirek Topolánek lors du récent vote de confiance à la Chambre des députés. D'après la télévision tchèque, un système d'écoute clandestin devait être mis en place dans une salle de la Chambre des députés utilisée par la Radio publique tchèque. Sur ordre de l'inspection du ministère de l'Intérieur, la salle devait être espionnée pendant 6 mois. Les écoutes liées à la fuite d'informations dans la dite affaire Kubice n'ont finalement pas été effectuées. Le groupe de statues de la Sainte Croix, l'un des 30 groupes sculptés ornant le pont Charles à Prague, était victime d'un acte de vandalisme. Une partie de l'inscription hébraïque de 1696 en métal doré a été volée. Selon le directeur de l'Institut Pragois de protection du patrimoine, il s'agit de pertes d'une valeur historique et artistique inestimable. Les fortes chutes de neige et un vent fort ont perturbé la circulation automobile en Bohême centrale et dans certaines régions de montagne. Sur l'autoroute D1, près de Brno, la circulation a été interrompue pendant plusieurs heures après que 10 voitures étaient entrées en collision. Médaille de bronze pour la Tchéquie au championnat du monde de cyclocross disputé à Hoogland en Belgique. Jiří Polnický s'est classé 3e au concours des juniors. Un ciel couvert, des chutes de neige et des températures diurnes autour de 0. Voilà ce que nous promet la météo pour dimanche, jour de fête des hôteliers. L'état d'alerte de niveau 3, qui est le niveau maximal, a été décrété dans les monts des Géants à cause du risque d'avalanche. C'était les informations avec Jirka Gusublova. Merci de les avoir suivies.
Rencontre littéraire, Václav Richter.
La vie, l'amour, la mort, le vide et le vent. Tel est le titre d'un recueil de poésie de Roger Gilbert Lecomte, dont la traduction tchèque est parue aux éditions Malverne. Cette poésie extrêmement originale éveille la curiosité. On aimerait savoir plus sur son auteur tiraillé entre la poésie et la philosophie, et sur le mouvement Le Grand Jeu, dont Gilbert Lecomte était la personnalité clé. Certaines de ces questions ont été abordées et élucidées lors d'une soirée littéraire au café de l'Institut français de Prague par le poète et réalisateur de cinéma Bertrand Schmitt.
Le Grand Jeu, ce sont deux choses. C'est à la fois une revue qui a existé à Paris dans les années 20, la fin des années 20, exactement de 1927 à 1932. Et c'est aussi un mouvement qui réunissait quelques jeunes dont les racines sont à Reims, la ville de Reims. Où en 1922 se sont rencontrés au lycée de Reims plusieurs jeunes gens qui avaient des aspirations à la fois littéraires mais surtout je dirais philosophiques, métaphysiques et qui ensemble ont fait une confrérie qui s'appelle les Frères Simplice, dans laquelle ils ont essayé de mettre en commun leur expérience de la vie, de la littérature, à la recherche d'un absolu. Et en 1927, ils ont décidé de créer cette revue Le Grand Jeu, qui a également invité des personnalités telles que Man Ray, Robert Desnos, et également des Tchèques, puisque à Paris, les jeunes poètes du Grand Jeu avaient rencontré Richard Wagner et Joseph Schima, et que par l'intermédiaire de Joseph Schima, des poèmes de Nezval ou de Seifert ont été publiés dans cette revue en 1928.
Quelle a été la part de Gilbert Lecomte dans ce mouvement ?
Gilbert Lecomte, donc, était une des jeunes personnes qui était au lycée de Reims, qui faisait partie des Frères Simplistes. Et je pense que sa personnalité était une personnalité très forte, très attirante, très séduisante. Et je pense que c'est autour de lui, de sa personnalité, que les jeunes gens se sont réunis. C'est donc un aspect important des choses. La seconde chose, c'est que lors de la création de la revue, il a été, le rédacteur en chef, celui qui a fédéré avec une autre personne importante qui était René Dommal.
Peut-on dire donc que c'était lui qui était le cœur de ce mouvement ?
C'est plus compliqué que ça, parce que je pense que Le Grand Jeu, contrairement à d'autres mouvements littéraires qui ont véritablement eu une personnalité directrice, Le Grand Jeu était véritablement une confrérie, c'est-à-dire que chaque personne avait son importance. Roger Gilbert Lecomte a eu son importance en tant que poète, mais d'autres personnes, telles que Joseph Schima, ont eu leur importance en tant que peintre, ou d'autres personnes en tant que René Roland de Renéville ont eu leur importance en tant que penseur. Donc il y avait quand même des personnalités fortes dans ce groupe.
Quels ont été les principes ou les principales tendances de ce mouvement ?
Alors c'est un mouvement qui ne se voulait pas être un mouvement littéraire. Donc d'emblée, l'aventure du Grand Jeu n'est pas une aventure littéraire ou artistique. Et ceci, c'est bien clairement indiqué par les jeunes gens du Grand Jeu qui veulent que leur aventure soit avant tout une aventure de l'expérience. Donc, dès le départ, le Grand Jeu essaie d'éviter un malentendu. Ce n'est pas une aventure littéraire, ce n'est pas une aventure artistique. C'est une expérience d'individu à la recherche d'une connaissance, d'une vérité métaphysique. Les jeunes gens mettent au point un principe qu'ils appellent la métaphysique expérimentale et dont le but est, à travers des expériences d'écriture, de création, mais également d'expérimentation de drogue, d'expériences physiques, d'essayer d'approcher une connaissance, et une connaissance totale, absolue de l'être. Et le but de la revue est d'exprimer cette collectivité, d'exprimer les recherches faites par cette collectivité.
Le Grand Jeu est pratiquement parallèle au mouvement surréaliste. Les premières expériences surréalistes, les expériences de sommeil, se font en 1922 et le groupe n'apparaît en tant que tel qu'en 2024 avec le premier manifeste du surréalisme. Mais il y a des points de contact. Les membres du Grand Jeu ont lu le premier manifeste du surréalisme et la révolution surréaliste, et dans les lettres qu'ils s'écrivent, notamment dans la correspondance entre Roger Gilbert Lecomte et René Dommal, on voit bien que les deux amis se rendent compte qu'il se passe quelque chose d'important dans le mouvement surréaliste. Bertrand Schmitt.
Il y a beaucoup de points de contact, il y a beaucoup de similitudes, mais très vite, le Grand Jeu se défie des aspirations politiques du surréalisme, pensant que le surréalisme est en train de perdre son originalité, est en train de perdre sa voix par les contacts qu'il est en train de prendre en 1925 avec le Parti communiste. Il y a donc une sorte de connivence. On l'a vu, il y a des gens qui sont proches du surréalisme comme Man Ray ou comme Robert Desnos qui vont participer à la revue du Grand Jeu. Il y a des lettres qui sont écrites entre André Breton, Roger Gilbert Lecomte, René Dommal. Il y a des contacts et il y a même en 1929 une tentative de regroupement entre le Grand Jeu et le surréalisme. Ceci ne va pas se produire. Les raisons sont très complexes et beaucoup d'historiens en parlent. Disons qu'il y a une aspiration plus spirituelle, plus métaphysique de la part du grand jeu, une aspiration plus politique de la part du surréalisme, qui fait qu'à un moment donné, les chemins se séparent, même si, par la suite, certains membres du grand jeu vont rejoindre le groupe surréaliste.
Quelle était la part des artistes tchèques dans ce mouvement ?
Alors, la part des artistes tchèques, elle est surtout représentée par Josef Šíma, qui a été le peintre du grand jeu. Il y a eu d'autres artistes ou d'autres personnes qui se sont exprimées par l'art dans le grand jeu. Je pense à Maurice Henry ou à Arthur Arfaud, par exemple. Mais Šíma reste bien entendu le grand créateur, le grand peintre du grand jeu. Mais avant Šíma, il y a une personne qui est un peu oubliée dans l'histoire du grand jeu, qui est Weiner. C'est-à-dire que Weiner, qui était donc à Paris, qui était correspondant de Lidoveni Novini à Paris, rencontre très vite, très tôt, les jeunes du grand jeu. Il rencontre Pierre Minet, qui est venu à Paris, et c'est par l'intermédiaire de Pierre Minet qu'il va rencontrer Roger Vaillant, et qu'il va rencontrer René Dommal, puis Gilbert Lecomte. Il va être très proche d'eux pendant quelques années. Et il ne va pas participer à la revue. Alors les raisons sont assez complexes. Je pense que Weiner était quelqu'un qui, à la fois, était attiré par l'activité collective, et en même temps avait une sorte de solitude qui fait que quand la revue était sur le point de se faire, il n'a pas donné de texte alors qu'il aurait dû donner de texte et il n'a pas participé à cette aventure. Il a repris certains souvenirs dans son livre « Jeu pour de vrai » qui est paru ensuite en 1933.
Le poète et réalisateur de cinéma Bertrand Schmitt a évoqué le mouvement Le Grand Jeu. Cette émission vous a été proposée par Václav Richter. Merci à Irena Viernochova, réalisation technique, et à Iveta Sedliska, prise de son.
L'émission que vous écouterez est une rediffusion.
Le tchèque du bout de la langue. Guillaume Narguet.
Salut à tous les tchécophiles de Radio Prague.
Ahoj vám všem, milovníkům češtiny Radia Praha.
Qui sont les Durand, Dupont et autres Martin, Petit, Leroy ou Moroček? Ou si vous préférez, quels sont les noms de famille,
příjmení,
les plus portés en République tchèque? Telle est la question à laquelle nous allons tâcher de répondre au cours d'une nouvelle série d'émissions. Pour cette fois, nous allons tout d'abord tâcher d'expliquer pourquoi hommes et femmes tchèques, tout en portant le même nom, portent un nom pourtant différent dans la forme.
Dáša Nováková a Stáňa Poláková řekli si, že půjdou dnes po obědě navštívit kamarádku Procházkovou, totiž Lída Horá.
Novák Nováková, Svoboda Svobodová, Novotný Novotná, Dvořák Dvořáková, Černý Černá, Procházka Procházková, Kučera Kučerová, Veselý Veselá, Horák Horáková
et enfin
Němec Němcová.
Tels sont dans l'ordre décroissant les 10 noms de famille les plus portés en République tchèque. Première remarque, vous n'aurez pas manqué de constater que 20 noms, et non pas 10, figurent dans cette liste, et ce pour une raison très simple, puisque la langue tchèque veut que lorsqu'une femme porte un nom de famille, le suffixe
« ova »
soit ajouté à ce nom. Ce suffixe a deux fonctions principales. La première est qu'il permet de distinguer, à la seule lecture ou prononciation du nom, s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Ainsi, sans même connaître le prénom de la personne en question, les Tchèques savent que
Novak,
pour citer le nom de famille le plus répandu dans le pays, est forcément monsieur, tandis que
Novakova
sera madame, la femme ou la fille de monsieur
Novak.
La seconde fonction, elle aussi très importante, permet de décliner ce nom. Comme vous le savez peut-être déjà, la langue tchèque possède en effet 7 cas de déclinaison qui s'appliquent aux substantifs, adjectifs, pronoms, ainsi donc coup prénom et nom de famille. À noter cependant qu'aujourd'hui, la loi permet à une femme qui en fait la demande de retirer ce suffixe
« ova »
de son nom.
Dasha Novakova, Astania Polakova. Řekli si, není doma, nemá cenu vyzvánět, už toho necháme. Stáňa Poláková podotkla, že Procházková.
Quant aux femmes tchèques qui se marient avec un étranger et décident d'adopter et de porter le nom de leur mari, elles ne sont pas obligées d'ajouter ce suffixe. Ainsi, si une Tchèque, par exemple,
Teresa Novakova,
se marie avec un Jean-Michel Martin ou Alain Petit, elle pourra choisir entre s'appeler
Teresa Martinova
et
Teresa Martin,
ou entre
Teresa Petitova
et
Teresa Petit.
Toujours à propos de la transmission du nom de famille, précisons encore pour être complet que, comme en France d'ailleurs, en République tchèque, le port du nom de famille n'est qu'un usage. Une femme peut donc décider de conserver son nom de jeune fille, mais on peut également accoler le nom de son époux ou de son épouse à son propre nom. Dans ce cas de figure, notre chère
Teresa Novakova
pourra devenir
Teresa Novakova Martinova
ou
Teresa Novakova Martin.
Et inversement. Quant à Jean-Michel Martin, s'il décide de prendre le nom de sa femme tchèque, il deviendra logiquement Jean-Michel Novak et non pas Jean-Michel Novakova. Enfin, autre chose curieuse qu'il convient encore de signaler à propos du suffixe
« ova »,
même si
Teresa Novakova,
en se mariant à un étranger, s'appelle désormais Teresa Martin ou Petit et a donc décidé de supprimer le suffixe
« ova »,
si l'enfant du couple est une fille et naît en République tchèque, cette petite fille se verra automatiquement attribuer à sa naissance le suffixe et donc le nom de
Martinova
ou
Petitova.
C'est alors aux parents de faire les démarches administratives nécessaires permettant à leur fille de porter le même nom qu'eux en supprimant le suffixe. Enfin, pour clore tout à fait le sujet, sachez encore qu'une femme étrangère qui effectue une visite en République tchèque verra ou entendra le suffixe
« ova »
collé à son nom, notamment dans les médias. Il ne s'agit pas toutefois d'une attribution officielle. Ainsi, si madame ou mademoiselle Nathalie Petit fait une démarche pour obtenir, par exemple, un permis de séjour, elle restera toujours Nathalie Petit. En revanche, et cette remarque est essentiellement valable pour les personnalités, si une chanteuse, par exemple, vient donner un concert en République tchèque, on lui ajoutera généralement le suffixe
« ova ».
La célèbre Mireille Mathieu, pour ne citer qu'elle, considérée à une certaine époque comme le symbole de la chanson française, devient ainsi
« Mireille Mathieu Ova ».
Et cela afin de faciliter la déclinaison du nom et de permettre une meilleure compréhension.
A Stáňa Poláková, skutečně dva dny na to rozhodli se navštívit, ještě jednou Procházkovou. Stáňa Poláková.
C'est donc avec
Mireille Mathieuva
que prend fin ce Tchèque du bout de la langue, premier numéro d'une petite série consacrée aux noms de famille portés en République tchèque. En attendant de poursuivre nos découvertes dès la semaine prochaine, portez-vous du mieux possible.
Mějte se co nejlíp.
Portez le soleil en vous.
Slunce v duši.
Salut et à bientôt.
Zatím ahoj.
Courrier des auditeurs. Magdalena Hrozinková.
Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Prague. Après ce petit cours de tchèque, l'heure est d'ouvrir vos lettres, de répondre à vos questions et suggestions. Roger Cassagne d'Aurillac en France nous a écrit « Comme je vous écoute souvent pendant le petit déjeuner le matin, je connais bien cette émission Fais événements. Je l'apprécie car elle nous donne beaucoup de nouvelles et de points de comparaison avec notre pays ou l'Europe. » Un autre auditeur de Verne, Monsieur Jean Barba de Beaumont, nous a envoyé une très belle carte postale pour nous donner envie de venir ou de revenir dans sa région. À part cela, il écrit « chers amis, vous recevez peut-être moins de courriers. La raison est le prix du timbre. Il y a 2-3 ans, le prix était le même pour une lettre destinée à un pays de l'Union ou destinée à la France. Aujourd'hui, c'est 54 centimes vers la France, vers un pays de l'Union 60 centimes, pays hors l'Union, par exemple la Serbie, 85 centimes. Nos dirigeants se basent sur un proverbe français qui dit « Quand on aime, on ne compte pas ». C'est mon cas vis-à-vis de Radio Prague. Fin de citation. Merci, monsieur Barba. Éric Charon de Montviron a vraisemblablement écouté notre émission spéciale du 17 novembre 2006 animée par Anna Kubeshta. Il vous a parlé de lui, Eugène Fauché, chef de la mission militaire française en Tchécoslovaquie pendant l'entre-deux-guerres. Éric Charon nous a écrit « Il est bien dommage que ce général soit oublié des Français. Historien amateur, j'ai travaillé sur le sujet en découvrant l'existence de ce général dans le film « Du Nuremberg à Nuremberg » où Frédéric Rossif en faisait mention. J'ai particulièrement été impressionné par le fait que le général Fauché ait demandé symboliquement la nationalité tchécoslovaque en 1948 après les accords de Munich. » Par ailleurs, journaliste de profession, j'ai couvert en 1994 le 50e anniversaire du débarquement et notamment les cérémonies de Sainte-Mère-Église le 6 juin. J'ai pris à cette époque une photo curieuse et émouvante. Deux jeunes déployant le drapeau tchécoslovaque à 7h du matin pour une cérémonie intime, sans doute en mémoire d'un membre de leur famille. Christian Guibaudot de Tende en France nous pose une question intéressante, je cite « Ces derniers jours, en Allemagne, il y a eu quelques troubles avec l'inauguration des locaux de l'église de Scientologie à Berlin. Dans votre pays, l'église de Scientologie est-elle considérée comme secte, comme en France, ou comme église, comme aux États-Unis? Les membres de la Scientologie sont-ils nombreux en République tchèque ?» Fin de citation. Monsieur Guibaudot, sachez qu'à la mi-janvier, la presse tchèque a consacré des pages entières à ce sujet. Tout d'abord, les autorités tchèques n'ont pas encore reconnu à la Scientologie le statut d'église. D'après le porte-parole des scientologues tchèques, Jiří Voráček, la communauté est en train de préparer une demande pour l'obtenir. Il est vrai que le public chez nous considère souvent les scientologues comme une secte. La communauté compte environ 400 membres actifs et jusqu'à 2000 sympathisants. Ils se réunissent dans 4 centres à Prague, à Brno, à Plzeň et à Ostrava, donc dans 4 principales villes du pays. Dans le contexte de l'ouverture controversée de l'église de Scientologie à Berlin, les médias tchèques ont constaté qu'ici, la communauté n'était pas perçue comme étant particulièrement problématique, voire dangereuse. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous envoie la dernière chanson de ce courrier des auditeurs. Merci à vous tous de nous écrire, mais surtout de nous écouter. Merci pour vos vœux du nouvel an que nous continuons à recevoir. Le programme de Radio Prague en langue française se termine. Bon week-end et bonne semaine.
Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť. Skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hroť. Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť. Skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hroť. Potichu krást, jen tvůj stín za záclonou, když tužby ve mně tonou. Jsem skrytý mezi patry vysokých, jak Tatry a zmást. Tvůj pohled do kukátka, den je dlouhý, noc je krátká. Jsi důvod pro sonety, vrytítka staněty. Přes vlny.
čistou partu. Skrz amorově šipy ucítíš, jak se ti nepne hruď. Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stou partu. Skrz amorově šipy ucítíš, jak se ti nepne hruď. Tiše se snést a vpít se do koberců, jak poslední ze šílenců. Osahat tvé sěny jako kousek pěny, po tobě stéct a v pokolení jamce spát jako lupič v bance. Jsi důvod k odpovědi, proč jít ke zpovědi a lhát a kát se přitom na dvakrát. Lhát a stát dál v příšeří. Lhát a každým porem těla sát, vůně spod dveří, tvé vůně spod dveří. Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť. Skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti. Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť. Skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hruď. Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť. Skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hruď.
Listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 8 hours UTC on 7345 and 9860 kHz and at 17, 18 and 21 hours on 5930 kHz. Listeners in Northern Europe can hear us at 11:30 hours on 11640 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 10 hours UTC on 21745 kHz, at 17 hours on 15710 kHz, and at 22:30 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 17 hours on 15710 kHz and at 22:30 hours on 9435 kHz. Listeners in East Africa can hear us at 11:30 hours UTC on 17545 kHz and at 4:30 hours on 9890 kHz. Listeners in the Middle East can listen to Radio Prague at 11:30 hours UTC on 17545 kHz. Those of you tuning in North America can hear us at 14 hours on 13580 kHz, at 22:30 and 23:30 hours on 5930 kHz, also at 23:30 hours on 7345 kHz, and at 1, 2 and 4 hours on 6200 and 7345 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 10 hours on 15710.